Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal des sports de ce mardi 22 juillet 2025. On commence avec cette dernière information et le footballeur camerounais Brian Bemo a signé à Manchester United pour un transfert historique, 80 millions d'euros. Une nouvelle page de la carrière de l'attaquant de 26 ans, l'un des meilleurs buteurs du championnat anglais. Les précisions sont signées Cédric De Oliveira pour Radio France Internationale.
Une accélération, un contrôle délicieux et une frappe parfaite qui termine dans les buts adverses. C'est pour ce genre d'enchaînement que Brian Bemo a séduit Manchester United, géant du foot anglais mais éloigné des sommets depuis plusieurs années. L'attaquant camerounais n'est pas une star, en tout cas pas encore, mais il a fait beaucoup de mal la saison dernière aux défenses du championnat anglais avec le maillot de Brentford. 20 buts et 8 passes décisives en première ligue sous la houlette de Thomas Frank, un entraîneur qui lui aussi a changé d'air cet été à Tottenham, mais qui ravi du chemin que prend son ancien protégé.
J'ai travaillé avec lui pendant 5 ans et je pense qu'il méritait un gros transfert, peu importe le club finalement. De toute manière, quand vous avez entraîné un joueur aussi longtemps, vous ne pouvez que lui souhaiter le meilleur.
Ce transfert ressemble à un aboutissement pour Bemo, lui qui a eu une carrière sinueuse. Formé en France et auteur de quelques matchs en Ligue 1 avec 3, il avait rejoint Brentford dès 2019, alors que le club évoluait en deuxième division anglaise à l'époque. Après avoir tout connu, et notamment la montée en première ligue avec le club londonien, il va désormais porter un des maillots les plus mythiques au monde.
Voilà un transfert historique, un contrat de 5 ans plus une année optionnelle. Football toujours féminin cette fois, et déception pour l'équipe de France féminine. Les Bleus ont été éliminés en quart de finale du championnat d'Europe par l'Allemagne. Les précisions, Victor Missistrano, RFI.
Comme l'an passé aux Jeux Olympiques, l'aventure s'arrête en quart de finale. Les Françaises ont pourtant évolué à 11 contre 10 pendant quasiment tout le match, après le carton rouge de l'Allemande Catherine Henrich, coupable d'un tirage de cheveux dans la surface de réparation au quart d'heure de jeu. Grace Gueyoro a transformé le pénalty, mais 10 minutes plus tard, Sioke Nuxen a égalisé pour la Mannschaft. Le score n'a ensuite pas bougé jusqu'à la séance de tir au but, remportée par les Allemandes 6 à 5. Le sélectionneur français Laurent Bonadei le regrette, son équipe n'a pas brisé le plafond de verre des quarts de finale.
On n'a pas passé ce quart de finale, donc on continuera à travailler pour justement un jour le briser. Effectivement, c'est encore une série de tirs au but, comme on avait vécu aussi en Australie en quart de finale. Voilà, il faut continuer à travailler. Moi, je pense pas qu'il y ait un problème psychologique. Il y a aussi des adversaires qui ont de la qualité et qui font que quand on arrive à ce niveau-là, ça devient de plus en plus dur et ça se joue sur les détails.
Les Allemandes, équipe la plus sacrée de l'Euro, 8 fois déjà, elles affronteront en demi-finale les championnes du monde en titre, les Espagnoles.
Les championnes du monde espagnoles qui se préparent pour ce duel capital, elles qui n'ont encore jamais atteint la finale d'un euro. Et la Roja peut compter sur le retour en forme d'Aitana Bonmatí, la lauréate des 2 derniers ballons d'or. Touchée par une méningite virale et hospitalisée juste avant le tournoi, la joueuse du Barça a, semble-t-il, retrouvé tous ses moyens.
Oui, désormais je me sens à 100% physiquement. Je suis contente de mon état, je suis sereine. Je ne savais pas si cette méningite allait me poser problème durant le tournoi. J'ai beaucoup travaillé mentalement et physiquement pour être rétablie aussi vite que possible et j'en suis récompensée. Je ne vais pas oublier de remercier toutes les personnes qui m'ont aidée alors que j'étais loin de chez moi, de ma famille. Je leur en suis très reconnaissante.
L'Espagnole Aitana Bonmatí avant cette demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne. Rendez-vous mercredi soir à Zurich.
L'autre affiche des demi oppose l'Angleterre, championne d'Europe en titre, à l'Italie. Et enfin, cette première en Argentine depuis 12 ans, des supporters visiteurs ont pu accompagner leur équipe pour un match test. Cela faisait 12 ans donc que l'Argentine interdisait aux supporters de se déplacer à cause des violences que cela engendrait. Mais désormais, le pays veut redonner au sport son caractère populaire et familial. Et donc, les fans de Rosario Central sont venus à Buenos Aires. Lucas Lazo les a accompagnés. Reportage.
Peu importe le stade où tu joueras, nous te suivrons. Une promesse que les 6500 supporters de Rosario Central peuvent enfin tenir alors que leur équipe s'élance sur la pelouse de Lanús. Un garçon sur les épaules, l'autre tenu par la main, Luis savoure ses retrouvailles.
Je suis venu avec mes deux fils qui n'avaient jamais pu venir en tant que visiteurs. Et je les amène, comme mon père m'a mené moi. Et voilà, je suis ému.
À ses côtés, un groupe de jeunes donne de la voix, bien conscient des enjeux qui pèsent sur ce match à valeur de test, appelé par le bourdonnement d'un hélicoptère de la police.
Aujourd'hui, c'est le moment de montrer ce que c'est que le carnaval de Rosario Central et qu'on sait se comporter comme il faut. On est des fous, mais on va prouver qu'on se tient bien.
Lorsqu'ils se croisent aux abords du stade, les supporters de Rosario en jaune et bleu et leurs adversaires du soir en grenat se prennent timidement en photo, un peu surpris. Et dans les tribunes, ils se font face et se répondent. L'ambiance festive avait manqué à Maricel.
C'est joli pour le folklore du football. J'espère que ça reviendra. Mais le truc, c'est que, tu vois, nous, les Argentins, on est très, très passionnés. Du coup, parfois, on sème la pagaille.
L'expérience est concluante puisque c'est dans une pagaille maîtrisée que Rosario s'impose grâce à un but du champion du monde Angel Di Maria, célébré par l'ensemble du public pour son grand retour en Argentine.
L'autre actualité sportive du moment, c'est bien sûr du cyclisme et le Tour de France qui se poursuit. Et à la surprise générale, l'abandon de Remco Evenepoel.
Le Belge Remco Evenepoel, troisième du Tour l'an dernier, a abandonné hier à la surprise générale, à bout de force. Un coup dur pour lui et pour tous ses coéquipiers qui travaillaient depuis deux semaines pour mettre leur leader dans les meilleures dispositions. Le Français Valentin paraît peintre.
Il faut accepter, c'est le sport de haut niveau. Parfois, tout ne va pas comme on veut. On était tous assez confiants et lui aussi, il avait relevé la tête et était motivé pour l'étape. Donc, je pense que c'est vraiment que la forme n'est pas là. On va devoir se remobiliser sur de nouveaux objectifs. On est plusieurs coureurs qui marchent bien, donc, il va y avoir des opportunités dans les prochains jours et ce sera à nous de les saisir. On a déjà gagné trois étapes, donc je pense qu'on peut garder le sourire en regardant le bilan pour l'instant.
On entre dans la dernière des trois semaines du Tour de France Hommes. Lundi, c'était le deuxième jour de repos pour les coureurs avant une nouvelle étape de montagne ce mardi. 171,5 km. Christophe Mallet, bonjour, vous êtes toujours sur place. Qu'attendre de cette 16e étape? Les coureurs s'attaquent au terrible Mont Ventoux.
Ouais, tout à fait. Bah, il est terrible. Ouais, c'est un monstre, hein, simplement. Son surnom, le Mont Ventoux, c'est le géant de Provence, et ça veut tout dire. À l'hôtel où nous étions pour la journée de repos, de la terrasse, je peux voir le Mont Ventoux. Ben, on voit que c'est une montagne qui fait presque le double de la taille de toutes les montagnes autour. C'est une montagne sur laquelle, si vous connaissez pas le Mont Ventoux, bien il y a un moment la végétation a simplement arrêté de pousser tellement il y a de vent, tellement la météo peut être terrible là-haut. Donc c'est vraiment une des étapes clé de ce Tour de France. Ça peut vraiment basculer si ça se passe mal pour Tadej Pogacar. Il est en plein contrôle de ce Tour de France. Il a 4 minutes d'avance sur le second Jonas Vingegaard. Donc s'il y a quelque chose qui se passe, ça peut se passer sur le Ventoux. Après, Tadej Pogacar, il est totalement en contrôle sur ce Tour de France. Il peut vraiment bien contrôler cette course avec ses 4 minutes d'avance assez facilement. Donc, je ne suis pas sûr que quoi que ce soit arrive sur le Mont Ventoux. Par contre, ce qui va être super, c'est de voir, encore une fois, les coureurs à la peine. C'est dommage de le dire, mais c'est la réalité. C'est une des étapes, une des montagnes les plus difficiles en France. Quand elle apparaît sur le Tour de France, ça fait peur à presque tous les coureurs, même ceux qui l'ont déjà monté. Je dirais même plus, encore plus, à ceux qui l'ont déjà monté, ils la connaissent. Donc, si vous ne savez pas trop quoi faire ce soir, je vous conseille vraiment, s'il y a une étape à voir, c'est celle-ci, parce que c'est vraiment un paysage incroyable, Mont Ventoux. On passe d'une forêt équatoriale à l'impression qu'on est sur la Lune, et ça vaut vraiment, vraiment le détour de regarder. Donc, le Tour de France, à mon avis, ne se jouera pas sur le Mont Ventoux. Par contre, on devrait avoir de belles attaques, et si vous aimez un peu bien voir des coureurs dans la difficulté, des coureurs de comprendre ce que le cyclisme peut être vraiment et à quel point ça peut être difficile, c'est réellement une super étape à voir, le Mont Ventoux.
Pour l'heure, Christophe nous le disait, Tadej Pogacar est toujours en tête du classement général, maillot jaune. Il est bien parti pour s'offrir sa 4e grande boucle. Mais le Slovène ne crie pas victoire, rien n'est joué tant que ce n'est pas fini. On l'écoute.
L'autre jour, sur la route de Toulouse, j'étais un peu trop relâché en queue de peloton. Je me suis arrêté pour satisfaire un besoin naturel. Et là, la course s'est emballée. Il a fallu partir en chasse. Ensuite, je suis tombé dans le final. Et heureusement, les autres ont joué fair play en m'attendant. Mais vous ne savez jamais ce qui peut se passer. Encore hier, ça a failli mal tourner pour certains coureurs du classement général. Il faut toujours être concentré à 100% sur le tour. Parfois, ça se passe mal. Mais voilà, il faut être à fond constamment, souffrir pendant 21 jours. C'est comme ça.
Le premier Français au classement général, c'est Kevin Vauquelin. Il est 5e. Et le Français Lenny Martinez porte, lui, sur ses épaules le maillot à poids, celui de meilleur grimpeur. On passe au tennis et la révélation française de Roland-Garros a remporté son premier titre sur le circuit principal. Loïse Boisson s'est imposée en finale du WTA 250 d'Hambourg. La Dijonnaise de 22 ans est assurée de grimper à la 44e place mondiale. Loïse Boisson s'était révélée, souvenez-vous, aux yeux du grand public en atteignant le dernier carré de Roland-Garros en juin dernier. On fait le point sur cette victoire avec Victor Missistrano.
Loïse Boisson avait créé la sensation à Paris. Hier, la Française a remporté à 22 ans son tout premier titre en carrière sur le circuit WTA, le tournoi de Hambourg en Allemagne. Victoire en finale 7-5, 6-3 contre la Hongroise Anna Bondar. Loïse Boisson poursuit son ascension, 361e mondial avant Roland-Garros. Elle va intégrer aujourd'hui le top 50 du classement.
Loïse Boisson, 44e mondial, la Française la mieux classée. Et des nouvelles d'une ancienne numéro 1 mondiale, l'Américaine Venus Williams. Eh bien, elle revient en compétition à 45 ans et après 16 mois hors des cours. Elle joue le tournoi de Washington, Olivier Pro.
À 45 ans, l'aînée des sœurs Williams ne semble pas encore vouloir prendre sa retraite. Elle a annoncé son retour, oui, à la compétition lors du tournoi de Washington, là, cette semaine, un an après avoir subi une ablation des fibromes utérins qui la faisait souffrir depuis des années. À 16 mois après son dernier match, une défaite au premier tour du tournoi de Miami, c'était en mars 2024. C'est donc un nouveau défi à relever pour la championne aux 7 titres du Grand Chelem. Il y a 20 ans pour le plus ancien, 22 ans même. Elle veut d'abord prendre du plaisir sur le court, Venus Williams.
Ma définition du succès aujourd'hui, c'est de croire en moi et de rester fidèle au processus que j'ai mis en place. C'est ce que j'essaie de faire quand je suis sur le court, c'est aussi ce que je fais à l'entraînement. Évidemment, c'est une phrase très large parce qu'il n'y a que moi qui sais comment je fonctionne, mais ce n'est pas toujours facile de croire en soi. Dans un match, tu peux croire en toi un point et puis ne plus croire le point suivant. Ce n'est vraiment pas simple, surtout après une longue absence.
Et elle sait de quoi elle parle, hein. 5 Wimbledon, 2 US Open sur ses 7 titres en Grand Chelem et alors une pelletée en double également avec sa sœur et puis elle est également championne olympique. Venus Williams donc disputera son premier match pour son retour demain, ce mardi, donc face à sa compatriote Peyton Stearns, 35e mondial, qui n'était pas encore née quand Vénus a remporté son premier Grand Chelem en 2003.
En boxe, ce week-end se tenait ce qui était annoncé comme le combat de l'année. À Wembley, devant près de 100 000 spectateurs, le favori Alexander Usyk a remporté le choc de poids lourd contre Daniel Dubois. L'Ukrainien a mis KO le Britannique à la 5e reprise. Retour sur ce match avec Christophe Direnzian.
Comme en août 2023, le vétéran de 38 ans a battu son adversaire, et plus rapidement d'ailleurs qu'il y a 2 ans. Cette fois, c'est par un KO dès la 5e reprise que Dubois a dû céder sa ceinture mondiale IBF à celui qui détenait déjà les 3 autres, WBA, WBC et WBO. Qu'a-t-il à prendre maintenant, à son âge, et qu'on est à nouveau le roi absolu du ring? Sa retraite, certainement pas. Du repos, c'est certain.
Je me suis préparé pendant 3 mois et demi. Je n'ai pas vu ma famille, ma femme. Tous les jours, je vis avec mon équipe. 14 gars dans la même maison, les mêmes visages. Maintenant, je veux rentrer chez moi et je veux pouvoir choisir ce qui va suivre. Je continuerai la boxe, l'entraînement, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qui sera mon prochain adversaire.
Eh bien, on patientera Alexander Usyk, désormais auréolé de 24 victoires, dont 15 avant la limite.
En bref, en rugby, les joueurs de Fabien Galthié forcément déçus. Une terrible tournée d'été, 3 matchs test contre la Nouvelle-Zélande et 3 défaites contre les All Blacks. 29-19, c'est le résultat du dernier match, c'était samedi dernier. En basket, la saison est à l'arrêt pour plusieurs mois et la star française Victor Wembanyama en a profité pour passer quelques jours dans l'Hexagone. Il a même organisé son propre tournoi dans sa ville natale du Chesnay-Rocancourt en région parisienne. Moitié basket, moitié échec, l'événement s'appelle Hoop Gambit et Mathis Landais y était pour Radio France Internationale.
Victor Wembanyama est l'un des meilleurs basketteurs de la planète, mais il est aussi un très grand fan d'échecs.
L'amour des échecs, bon, ça vient de, c'est une passion qui remonte. Je pense que c'était simplement la curiosité à l'époque. Le fait que ça se passe au Chesnay, à 5 minutes à pied de chez moi, ça m'est très cher.
C'est à ce titre qu'il a créé Hoop Gambit, un tournoi avec des matchs de basket dans le gymnase et des parties d'échecs à l'étage. Un sacré coup de projecteur pour le jeu de plateau, de quoi satisfaire Adrien Duquesne, président de la Ligue d'Île-de-France des échecs.
Plus on a de sportifs de cette notoriété, et plus c'est une joie pour nous. Puisque bien sûr, ça permet au plus grand nombre de découvrir que les échecs, il y a des clubs, il y a des compétitions et il y a une ferveur actuellement autour de ça.
Cet événement permet aussi aux plus jeunes de rencontrer leur idole. À 10 ans, Victor, ça ne s'invente pas, repart de cette journée avec un sourire prononcé.
Quand il est arrivé, je me suis dit « Oh, ça va être dingue, sa hauteur !» Et là, quand je l'ai vu, j'étais trop content. Et je lui ai demandé de signer mon maillot et il a fait que je vais le mettre dans un cadre et je vais le mettre dans ma chambre.
Après avoir passé du temps avec les fans, Victor Wembanyama a disputé plusieurs parties d'échecs. Pas sûr, pour autant, qu'il se lance dans une nouvelle carrière.
Allez, pour clore ce journal des sports, on va parler des Jeux Olympiques. Souvenez-vous, les Jeux Olympiques 2024 à Paris, c'était il y a presque un an, à 4 jours près, puisqu'ils avaient débuté le 26 juillet. Un événement que le département de la Seine-Saint-Denis a mis à l'honneur, comme le rapporte à nouveau Mathis Landais.
Du parc de la Villette au centre olympique aquatique, de Paris à Saint-Denis, 250 participants étaient présents à la grande marche héritage olympique. Parmi la foule, Odile, qui était volontaire sur les épreuves d'équitation à Versailles l'été dernier, elle ne voulait surtout pas manquer cette occasion.
Eh ben, je suis très contente parce que ça me rappelle un très bon souvenir. Puis de visiter des lieux que je n'ai pas pu visiter pendant les Jeux, puisque c'était pas ouvert au public, évidemment.
Gratuit, l'événement se voulait accessible, mais aussi instructif. Pour l'occasion, la guide conférencière Valeria Pichugina était en charge d'animer la visite du village olympique.
Ça me tient au cœur parce que moi j'ai travaillé ici sur ce site depuis le début. C'est pour ça que je continue de raconter l'héritage qui ont laissé les Jeux, surtout en Seine-Saint-Denis.
Quentin, appareil photo autour du cou, apporte lui aussi beaucoup d'importance à la notion d'héritage.
Il faut continuer à mettre en avant tout cet héritage. Les laisser par la dynamique des Jeux Olympiques de 2024, au-delà de vraiment l'impact au niveau sportif.
Au total, pas moins de 7 lieux liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ont été visités pour une randonnée de 14 km à l'arrivée.
Voilà messieurs, dames, c'était le journal des sports de ce mardi 22 juillet. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.